bénéficier des conseils, avis, arguments, idées de Rémi Culic du Jardin des Merveilles de Vao. On parle de permaculture, de jardinage écologique et de fertilité, en particulier aujourd'hui avec Rémi, en studio avec moi. Salut Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors il existe le triangle des Bermudes, mais il existe aussi le triangle de fertilité. C'est ainsi que toi tu vois un cycle qui doit être équilibré pour nous permettre d'avoir des végétaux en superbe forme, d'avoir derrière soit des légumes ou des fruits, ainsi qu'un sol de superbe qualité. Mais aussi on pense à la biodiversité, parce qu'un bon jardin n'est pas un jardin où il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux qui viennent se balader là. Il faut tout cet équilibre là pour que tout le monde soit content en quelque sorte, quoi.
C'est ça, tout fait partie du jeu, tout a sa place et tout est lié aussi.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce triangle de fertilité donc?
Alors, triangle de fertilité, moi j'aimerais bien déjà raconter de quoi ça m'est venu. Donc tu parles du triangle des Bermudes, c'est pas sûr que je pensais. Moi j'ai appris, j'ai été pompier à une époque dans ma vie, dans une autre vie, et on m'a parlé du triangle du feu. Triangle du feu, c'est pour qu'un feu brûle, il faut qu'il y ait du combustible, du comburant et une énergie d'activation. C'est trois points. Si tu supprimes un des trois, le feu s'éteint. Bon, je vais pas détailler plus là-dessus. Mais l'idée du triangle de fertilité, c'est de voir c'est quoi qui est important dans un sol pour qu'il soit fertile. On va pas forcément parler de comment nourrir chaque type de plante, c'est pas pour les potagères, les arbres ou quoi, c'est pour qu'il soit fertile tout simplement. Et pour qu'il soit fertile, il faut qu'il y ait ces trois points. C'est un sol structuré, avec un sol bien aéré, que l'air, l'eau puisse bien circuler dans le sol. Un sol riche en matière organique, ça c'est la base alimentaire qui va nourrir la vie du sol. Et ça c'est le troisième point, la vie du sol. Il faut qu'un sol il soit structuré, nourri et vivant. Si tu supprimes un de ces trois points, le sol ne peut pas être fertile. Si tu as un sol dans lequel il y a de la vie, il y a de la matière organique, mais il est compacté, ça marchera pas. Si ton sol il est bien structuré, qu'il y a de la vie, mais qu'il n'y a pas de réserve alimentaire, ça marchera pas. Et dans l'autre sens, pareil, s'il manque la vie, tu peux avoir tout le reste. Un sol bien structuré, plein de matière organique, mais mort, enfin sans bactéries, sans insectes dans le sol, eh ben ça ne marchera pas non plus. Donc c'est vraiment les trois points qu'il va falloir amener dans son sol. Et puis plus tu vas tirer sur ces trois points, plus tu vas le structurer, plus tu vas apporter de matière organique, plus il va être vivant, plus il va être fertile.
Biodiversité, sol, matière organique, on va reprendre tout ça un peu point par point. On commence par le sol, hein. Tu as parlé de structuration du sol. Dans une précédente chronique, tu nous as dit il faut nous adapter, on doit faire avec. On a acheté un terrain, un endroit, on en a hérité, où on n'a pas le choix, on habite à tel endroit, on fait avec le sol que l'on a. Mais comment changer, modifier ou en tout cas jouer sur la structuration de son sol du coup?
Alors justement, la dernière fois, on avait parlé de s'adapter à sa texture et c'est là que c'est génial de rebondir sur ça. On confond souvent, où on se rend pas forcément compte qu'il y a deux choses différentes à savoir là. La texture et la structure, c'est deux choses totalement différentes. La texture d'un sol, ça va être le ratio entre la quantité de sable, de limon et d'argile. Si on a un sol avec beaucoup de sable, un peu de limon, on a un sol sablo-limoneux. On entend souvent ces mots, on dit on a un sol argilo-limoneux, argilo-sableux. Donc ça, c'est la texture d'un sol. Une fois qu'on connaît sa texture, on ne peut que s'y adapter parce que la texture ne va pas changer. À part, comme on disait la dernière fois, où tu pourrais apporter des camions de sable pour avoir un sol plus sableux, mais normalement la texture on joue pas trop dessus. Ta texture, quoi que tu fasses, elle bougera pas. Par contre la structure, là c'est l'aération. Donc sur un grand champ, tu pourras passer un outil qu'on appelle la sous-soleuse qui va aérer ton sol serré compacté. Dans un petit potager, tu vas pouvoir mettre un coup de grelinette pour pouvoir aérer ton sol. C'est comme ça que tu vas jouer sur la structure. Par contre si tu joues sur la structure mais que tu joues pas sur la vie du sol, parce que la vie du sol, c'est elle part. Donc, quand on en dit vie du sol, c'est les racines des plantes, les bactéries, les vers de terre, les micro-arthropodes qu'il y a dans le sol, les champignons qu'il y a dans le sol. Tout ça, ça va tenir la structure. Donc, toi, tu vas pouvoir, en mettant un coup de grelinette ou avec n'importe quoi comme outil, aérer ton sol. Mais si tu apportes pas de la vie, ton sol va pouvoir se recompacter derrière. Donc, jouer sur la structure, ça va être mettre le coup de grelinette et pourquoi pas éventuellement faire un semis d'engrais vert, un couvert végétal. N'importe quelle plante qui va pousser dans ton sol, qui par les racines va aider à structurer un petit peu plus. Et les racines, c'est assez complexe tout ça, mais les racines en plus vont dégager ce qu'on appelle les exudats racinaires. En gros, elles vont cracher du sucre par les racines. On pourrait le résumer comme ça. Et ce sucre va nourrir les bactéries qui vont nourrir tout le reste de la vie du sol, et le sol va comme ça être de plus en plus vivant. Donc les trois choses qu'on pourrait faire pour avoir un sol bien fertile, on pourrait se dire mettre un coup de grelinette, faire un apport de paille, de copeaux de bois, enfin de BRF, de feuilles mortes pour qu'il y ait une réserve de matière organique, faire un semis d'engrais vert ou un couvert végétal, et on a joué sur ces trois points. Et à partir de là, On est permaculteur, donc on fait ce qu'on appelle un cycle de design. On observe, on agit, on observe, on analyse, on conceptualise ce qu'on va pouvoir faire. Là, on vient de faire quelque chose et on met en place. Et ensuite, on observe et on voit ce qui se passe et on voit s'il faut mettre plus de matière organique, restructurer parce que ça s'est tassé un petit peu plus, refaire un semis parce que le sol est pas assez végétalisé. Donc, on va garder en tête ces trois points du triangle et voir sur quel point ça pêche et sur quel point il va falloir tirer un petit peu plus.
Et lorsque ça pêche, par exemple, dans le sol, donc en dehors de mettre le petit coup de grelinette, de planter des engrais verts, ou en tout cas de planter des végétaux hein, sur le sol, est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu vois comme ça, que l'on peut faire pour améliorer du coup la structuration de son sol?
La structuration, elle va être, pour moi, elle va être entretenue par les végétaux. Donc si le coup de grelinette et le couvert végétal n'a pas suffi, c'est juste recommencer le couvert végétal.
Ouais.
Parce que on pourrait même se dire, là, c'est vraiment si on veut être dans l'urgence. On arrive sur un terrain à un moment, on a envie qu'il soit fertile dès les semaines qui viennent. On va pouvoir tirer sur ces trois points. Mais sinon, on pourrait se dire, moi, je suis pas pressé. Je veux que mon sol soit fertile et soit bien structuré. Eh ben, on fait un couvert végétal, un semis. Et donc, on va pouvoir préciser un petit peu plus quel type de plante on va y mettre pour la structure. Parce que les engrais verts, ça peut avoir plein d'intérêts différents, notamment sur le compactage du sol et sur la structure, qui sont deux choses différentes. Un sol compacté, ça va être par exemple un sol qui a été labouré souvent et dans lequel il y a une semelle de labour. La semelle, c'est en gros à 30 ou 40 cm de profondeur, la profondeur du labour. Il y a une zone qui est très très compactée. Ben, pour réparer ça, on va y semer des plantes avec des racines pivots. C'est des racines
grosses racines verticales
qui plongent verticalement dans le sol. Et donc ça va casser un petit peu cette semelle de labour. Et à côté de ça, on va avoir des plantes qui vont jouer sur la structure du sol, donc un sol bien aéré, un sol un peu grumeleux, on pourrait dire. Et ça va être ce qu'on appelle des systèmes racinaires fasciculés. Les graminées font beaucoup ça, c'est plein de petites racines qui partent dans tous les sens, et toutes ces racines vont casser un petit peu les mottes qu'il y a dans le sol, et derrière ça, on va avoir un sol qui va être bien structuré.
On voit que tout est un peu lié, hein, donc entre ces plantes que l'on met, qui vont jouer donc sur la structure du sol. J'en reviens aussi à la vie dans notre sol, donc la biodiversité. Hein, on pense que la biodiversité, c'est uniquement des oiseaux qui chantent et des abeilles qui font du miel. Mais la biodiversité, elle est aussi dans le sol. Tu as parlé des champignons, tu as parlé de tous ces arthropodes qui sont même parfois microscopiques, hein, qu'on a même des fois du mal à voir. Mm-hmm. Et tous ont une importance aussi pour la fertilité de notre sol.
Complètement. Il n'y en a pas un qui soit pas essentiel. Il y a souvent des gens qui me demandent comment tu fais pour savoir si ton sol il est riche en bactéries. Donc on parle de microfaune, microflore, mésofaune, mégafaune. Enfin, il y a différents degrés et tous sont pas observables. Il y a les collemboles, c'est des tout petits insectes. Si on a un bon œil, donc si on n'a pas passé la quarantaine et qu'on porte pas des lunettes comme moi, à l'œil nu on pourrait les voir. Sinon avec une loupe on les voit très facilement. Mais après il y a les plus gros. Il y a les vers de terre par exemple. Un vers de terre, il se nourrit pas par définition. Il avale de la terre, mais c'est pas ça qu'il mange. Lui il mange des bactéries. Les bactéries elles se nourrissent de matière organique. Mais ça veut dire que si on a des vers de terre dans son sol, il y a des bactéries. On n'a pas besoin de les voir. Mais si on voit l'animal qui s'en nourrit, c'est clairement qu'il y a des bactéries dans son sol. Donc toute cette faune-là, toute cette flore-là et microflore qu'on ne voit pas à l'œil nu, si les animaux plus gros sont présents, c'est que les plus petits sont forcément là.
C'est fini le temps où on avait un peu, on va dire, peur, c'est peut-être pas le mot, mais ça nous faisait toujours un peu quelque chose quand on retournait le sol et qu'on voyait qu'il y avait plein de vers de terre. C'est plutôt un très très bon signe d'avoir plein de vers de terre quand on retourne un sol.
Ah, complètement, complètement. Après, il y a différents types de vers, mais tous ont un intérêt et tous sont hyper intéressants. Celui qu'on appelle vraiment le vers de terre, le lombric, qui est plutôt rose et assez gros, c'est ce qu'on appelle le groupe des anéciques qui vont faire des allers-retours entre la profondeur et la surface. Ils vont se nourrir. Ils vont avaler de la matière organique en surface, ils vont descendre en profondeur, avaler de la terre.
Et c'est comme ça qu'ils mélangent aussi.
Les deux se mélangent, ils vont rapporter leurs déjections en surface qui sont la base du complexe argilo-humique, ce qu'on dit. Même on pourrait faire une chronique sur ça, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais du coup, il a un intérêt énorme sur le mélange du sol et le fait de rapporter en surface des choses des profondeurs et qui vont apporter de la fertilité. Ensuite, on a les vers de surface. Celui qu'on appelle, son nom latin c'est Esenia fetida, le ver de fumier, c'est celui qu'on prend pour aller à la pêche des fois. C'est celui qu'on utilise pour faire du lombricompost aussi. Lui, il se nourrit uniquement de matière organique en surface et ses déjections, c'est de la fertilité pure. Quand on fait le lombricompost, on va récupérer la matière solide du lombricompost hyper nutritive. On peut récupérer les jus qui s'écoulent en bas du lombricompost, qui sont un engrais mais hyper intéressant. Donc tout ça, c'est oui, ça joue très très bien dans la fertilité. Donc non, n'ayez pas peur de vos vers.
Et même, on peut apporter des choses pour avoir un peu plus de vers, ou en tout cas attirer des vers. Là, je me mets dans la potion de quelqu'un, mais tiens, qui achète un terrain parce qu'il a trouvé que la vue était belle, mais il connaît pas forcément l'histoire de ce terrain qui était peut-être sous agriculture intensive. Et premier coup de pioche, ben, zéro vers de terre, zéro rien du tout. Là, c'est le moment de se dire, ben, comment améliorer la fertilité de mon sol? Et là, ben, tiens, comment on fait?
on revenait en arrière sur la chronique, et pareil. Hein. Alors, il n'y a aucun sol, en France en tout cas, il n'y a aucun sol où il y a zéro vers de terre. Il y a des sols agricoles très abîmés, voire presque totalement détruits. Mais même dans ces sols-là, il y a encore des bactéries, il y a encore des vers. Donc, l'idée, c'est juste de stimuler. Et comment on va stimuler un sol? Eh ben, on va, si ça manque de matière organique. En fait, c'est cette idée de triangle de fertilité, c'est aussi pour voir c'est quoi les trois points importants. Et quand on sait que les trois sont, c'est, quand on connaît ces trois points, on va voir dans son sol qu'est-ce qui manque. Si c'est un sol qui a été très cultivé, sur lequel il y a peu de matière organique qui a été apportée, eh ben, en apportant beaucoup de matière organique, pourquoi pas, si on va les tondre, on va apporter de la tonte de gazon, ça, les vers adorent manger ça. En gros, on va les nourrir. Mais s'il y a peu de vers de terre parce que le sol est compacté, ben, on va le décompacter. En fait, tout est dans le triangle de fertilité. Selon ce qui manque sur les trois points, c'est ça qu'on va apporter. En général, ça joue quand même beaucoup sur la structure et la quantité de matière organique. Donc, on pourrait juste mettre un coup de golinette et apporter de la matière organique. Et laisser pousser naturellement ce qui vient. Après, là, le risque, c'est que dans ce qui va venir naturellement, il y a des plantes qui, derrière, pourraient devenir gênantes, que certains pourraient avoir envie d'appeler mauvaise herbe. C'est pas mon cas. Mais voilà. Et si on veut éviter ça, eh ben, en plus de structurer et de l'apporter de la matière organique, on va faire un semis d'engrais vert, de couvert végétal, où là, on va choisir les végétaux qu'on apporte. Et à partir de là, le reste va se faire tout ça. Tout seul, le peu de vert qui va rester dans notre sol, ils vont se reproduire et ça va venir tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des vers quelque part ou d'en rajouter. Ça, c'est ils sont là. Ils sont juste là. En tellement ouais. petite quantité qu'on ne les voit pas et qu'on a l'impression qu'il n'y en a plus. Mais voilà, c'est et très,
même,
très rare.
Et même s'il y en a, on peut avoir envie pour X raisons hein, d'augmenter la fertilité ben, de son triangle, hein, de son sol, pour avoir une meilleure productivité. Et ben, habituellement, il y a plusieurs techniques que l'on utilise, mais la plus connue, ben, c'est de récupérer, on va dire, les déjections animales. Mm-hmm. Donc si on a la chance d'avoir un agriculteur, un fermier plutôt pas loin, on peut aller récupérer tout ce qui est fumier, etc. pour en mettre. Mm-hmm. Ou alors sinon, on se lance dans un élevage de quelque chose. Ça, c'est aussi une possibilité.
Complètement, ouais, ça c'est ce que je dis. C'est pour dépasser les limites de cette auto-fertilité, parce que l'auto-fertilité, alors ça paraît très utopique de dire que c'est auto-fertile. Un jardin-forêt dans lequel, alors moi je suis très jardin-forêt, mais même un potager dans lequel on arrive à, en apportant des couverts végétaux, des plantes qui fixatrices d'azote qui vont nourrir un petit peu. Enfin, on parle d'auto-fertilité, mais pour moi, elle a une limite quand même. Et cette limite, donc pour revenir sur mon thème de jardin-forêt, si on fait un jardin-forêt pour se nourrir soi, nourrir sa famille, qu'on va récolter de temps en temps quelques fruits, mais qu'on laisse les feuilles mortes tomber au sol, tout ça, c'est auto-fertile, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Par contre, si c'est pour une visée plus commerciale, si on fait un potager où on est maraîcher et on va récolter beaucoup de légumes, ce que j'appelle des exportations, si on exporte beaucoup, les fruits, les légumes, tous les feuillages, tout ce qu'on va récolter, c'est des matières nutritives que les plantes ont récupérées dans le sol pour faire des fruits. Et si on récolte ça et qu'on les enlève du système,
on casse le cycle.
On mange de la fertilité, on la supprime un petit peu. Et donc, quand on va exporter beaucoup, on atteint les limites de l'auto-fertilité. Et là, pour le coup, bah, il va falloir mettre de l'engrais. Hein. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont aller acheter à droite à gauche différents types d'engrais. Nous, on avait déjà parlé ici dans ces chroniques de récupérer l'urine ou le compost de toilette sèche ou faire des purins de plantes. Voilà, et ben, pour combler ce manque d'auto-fertilité, ce manque de fertilité, ben, pour moi, la basse-cour, c'est vraiment ce qui va produire les déjections les plus nutritives. Après, on pourrait faire pareil avec du fumier de vache, du crottin de cheval, n'importe quelle déjection animale, de toute façon, est nutritive. La nature fonctionne comme ça, de toute façon, tout se nourrit. Chaque animal, chaque être vivant va se nourrir des déjections d'un autre animal. Le seul être vivant sur la planète qui se nourrit pas de déjections d'un autre animal ou d'un autre être vivant, c'est la plante. Le végétal, lui, il est autotrophe, parce qu'on dit, il se nourrit d'air et de lumière. Mais tous les autres êtres vivants se nourrissent de déjections. Donc c'est ça qu'on va pouvoir mettre en place, booster un petit peu pour voilà, combler ce manque d'auto-fertilité.
Et nous, sur CFM Radio, on se nourrit des paroles de Rémi qui dit que pour pousser un peu plus, ou en tout cas pousser de manière vertueuse et verte dans Plantes, histoire de plantes, mais tiens, on va parler de ces limites de l'autofertilité dans la prochaine chronique, dès la semaine prochaine, et comment casser cette autofertilité, ou en tout cas augmenter la fertilité pour son sol, ses végétaux, et bien pour soi aussi, d'une certaine manière. Merci beaucoup Rémi Kulik, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.